Alors, bonjour, je m'appelle Sarah Soucier, donc je suis en thèse, je commence ma troisième année au LASCO Sophia Paul Nanterre et deuxième année à l'Institut catholique de Paris. Donc, je suis chargée de mission depuis 2 ans sur un projet qui s'appelle Élaborons ensemble l'avenir. Donc il y a 2 terrains qui ont été commencés, hein, le travail n'est pas du tout fini. Un premier à Losangoël, qui est une ville du Nord-Pas-de-Calais à côté de Lens, donc ancienne cité minière avec un contexte socio-économique évidemment assez complexe. Et une deuxième, donc un contexte totalement différent, c'est Sévigné, en Ille-et-Vilaine, qui est un peu présenté souvent comme le Neuilly de Rennes. Donc c'est une ville voilà, très pavillonnaire, assez riche, qui connaît 3 changements majeurs depuis quelques années. C'est d'abord l'alternance politique, c'est une augmentation démographique prévue pour les 20 prochaines années très très importante, et puis l'apparition d'une certaine mixité sociale qui était jusque-là absente du territoire. Donc sur ces 2 territoires, je me pose une question, c'est celle de la prise en compte des aspirations des habitants et usagers du territoire dans les projets d'urbanisme qui se réclament du développement durable. Donc dans cette problématique, j'ai été très influencée par Jean-Marc Delon et son ouvrage pour une sociologie des aspirations, où il appelle à prendre en compte les projections des habitants dans la planification, notamment urbaine. Et il exprime la nécessité d'aller vers une gouvernance un peu plus bottom-up pour une question éthique, ça il se rapproche du développement durable, mais aussi pour une question d'efficacité tout simplement. Il démontre ça sur des exemples ouvriers de l'époque où il écrit, et on peut trouver les mêmes exemples pour le développement durable. Donc un peu cette catégorie d'aspiration me permet d'identifier un type de discours qui se porte sur l'avenir, sur la société souhaitable, société idéale, et c'est sur ce type de discours-là que je travaille au quotidien. Donc en matière de société idéale, de société souhaitable, le développement durable est particulièrement prolixe. Il intègre à mon sens les dimensions du mythe telles qu'ils sont proposées chez Sorel, repris par Paul-Marie Boulanger, qui est le mythe serait ainsi un système ou un ensemble d'idées qui confère une dimension ou une signification transcendante à la vie humaine, au-delà de l'existence quotidienne, routinière et étriquée. Donc Paul-Marie Boulanger nous explique que, d'après Sorel, le mythe permet de s'élever au-dessus de la condition des personnes, la condition ordinaire, pour avoir une vision mobilisatrice de l'avenir, et que ce mythe permet aux personnes de devenir aptes à se mobiliser dans une action collective pour réaliser cette société idéale qu'ils souhaitent. Donc, Chambard-Delos parle des aspirations et dit qu'il existe une dynamique à observer entre la création de nouvelles aspirations et la définition dont les individus ont de leurs besoins, en fait. Et que cette observation est venue entre la création d'une aspiration qui devient un besoin, besoin d'aspiration, puis besoin de première nécessité. On voit dans ces dynamiques la création de nouvelles valeurs, de nouvelles valorisations. Donc là encore, une grande affinité avec les problématiques du développement durable, il me semble. Donc les différentes questions que je me pose, c'est d'abord dans un territoire où une approche en termes de développement durable est menée, sont proposées par les pouvoirs publics, souvent, ces politiques de développement durable. Quels sont les émetteurs du discours sur l'aspiration à la durabilité et comment ces discours-là se diffusent au sein de leur territoire? Je suis les récepteurs de ce discours. Comment ça se fait qu'à un moment, ça fait système, ce système de valeurs est adopté? Et quelles adaptations entre les aspirations mobilisées et les programmes de développement durable qui leur sont proposés? On peut observer les ressorts positifs ou négatifs de ce type d'adhésion ou pas à un système de représentation du développement durable. Et puis enfin, quelles sont les problématiques soulevées dans cette rencontre entre aspiration et développement durable? Dans quelle mesure débouche-t-elle sur une approche critique du mode de gouvernance valorisé par le développement durable? Donc, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, je dis juste que pour moi, développement durable, un peu les points forts pour identifier ce type de discours, ma définition du développement durable, mais qui n'est pas la mienne, c'est celle de Jacobs. Donc, c'est l'intégration de l'environnement à l'économie, l'orientation vers le futur, la protection de l'environnement, l'équité intragénérationnelle, la qualité de vie et la participation. C'est un peu mes piliers que je garde. Donc, dans l'identification des émetteurs du discours sur l'aspiration à la durabilité, la première instance que j'observe et où j'ai beaucoup de matière, c'est évidemment les municipalités. Comme je suis sur vraiment 2 petits territoires et vraiment le travail avec les villes, c'est mon premier émetteur de discours. Et l'un des premiers leviers qu'on peut voir apparaître, c'est l'utilisation que ces municipalités font de la loi ou de la norme des chartes. Donc là, j'ai pu observer deux cas très différents. À Cesson-de-Sévigné, on avait une justification toujours par la loi, en fait. Il y a un certain nombre de lois, enfin, lois, normes, donc les lois Grenelle, un PLH modifié, un certain nombre de cadres qui vient justifier une approche en matière de durabilité. C'est toujours le registre qui vient justifier. Et notamment, ces lois-là multiplient la densité par 3 sur un quartier en construction, qui est un quartier qui devient un écoquartier alors qu'il n'était pas forcément à la base dans le projet en 2005. Et donc, pour justifier cette densité qui arrive sur un territoire qui ne connaît absolument pas la densité, c'est que du pavillonnaire, tout le temps, ce qui est mobilisé, c'est on applique le cadre, sans qu'on puisse distinguer si c'est un souhait vraiment de l'équipe en place ou si c'est juste une conformité. Donc, à Los Angeles, on a une logique totalement différente, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, où finalement, la loi... on en parle comme quelque chose qui ne va pas assez loin. Donc, on essaye de créer de l'innovant dessus. Donc, nous, on a travaillé avec eux pour que leur plan local d'urbanisme puisse intégrer la notion de vivre ensemble et une notion sociale au-delà du cadre même défini par ces contraintes juridiques. Et donc, il y a toujours une volonté d'aller un peu au-delà. Et pour aller un peu au-delà, là, on rajoute aussi des normes. Donc, il y a une charte du développement durable qui a été... construite assez tôt, et puis il y a un document qu'ils ont produit qui est un peu le document référence, quel que soit le projet à Los Angeles, c'est Los Angeles Ville Pilote du Développement Durable. C'est un document finalement qui pourrait être juste une production de bonnes intentions, mais en fait c'est vraiment le document où on veut à chaque fois que les projets soient en conformité avec ce document-là. Donc c'est un document qui rappelle les grandes lignes du développement durable, et puis comment elles sont déjà appliquées ou à venir à être appliquées sur le territoire. Donc voilà, ça c'est un premier point. Pour diffuser, donc toujours ces municipalités-là, elles ont différents moyens de diffusion de leur discours, au-delà du mode de justification. Donc on peut étudier, enfin moi j'ai étudié un certain nombre de publications municipales qui ont des attitudes aussi différentes dans la façon de diffuser ce discours. Donc à Cesson-Sévigné, ça va être des rubriques dédiées ou alors des petites annotations en plus dans d'autres rubriques, comme indiquer les produits biologiques dans le programme des cantines scolaires. Mais en fait, ça fait partie de la vie quotidienne. Sur une publication de 40 pages, on va avoir quelques pages et ça peut être mélangé. À Los Angeles, c'est une publication un peu plus scolaire. Enfin, souvent, les principes sont rappelés de façon très pédagogique et plus scolaire. La publication est moins volumineuse et moins régulière aussi. Mais plus imagée, par exemple. Enfin, on est dans une approche différente. La façon aussi pour les mairies de diffuser cette aspiration à durabilité, ça peut être dans des événements dédiés, soit une journée ville pilote ou alors des Grenelles, des états généraux du développement durable. Donc c'est aussi un moyen de diffuser. Donc pour aller un petit peu plus en détail sur qui émet le discours sur l'aspiration à durabilité au sein de ces mairies, on peut observer des rapports très différents entre élus, fonctionnaires et maires à l'intérieur des villes. Donc nous, on a eu deux exemples aussi assez différents. À Los Angeles, on a un maire très très charismatique qui incarne à lui seul la durabilité de son territoire et le projet de sa ville. Donc il se met en scène, c'est quelqu'un d'assez sportif, un peu type de personnage Nicolas Hulot, si vous voyez. Et donc il a un lien vraiment affectif fort avec sa population. Il y a un certain nombre de choses en matière de durabilité qui passent aussi par cet affect. La population, c'est la mamie qui va venir le voir et puis lui dire « je comprends pas tout ce que vous faites, mais c'est bien ». Voilà, il y a quelque chose de très affectif. Et il est vraiment dans une politique très volontariste, lui, de diriger ces idées-là et de les faire comprendre. Alors autour de lui, l'équipe municipale, les élus qui sont autour de lui semblent moins moteurs sur la question de la durabilité on pense qu'ils se répartissent plus le quotidien de la ville, moins sur le discours propre développement durable. Par contre, il a un appui sur les questions de développement durable très fort sur l'équipe municipale, les fonctionnaires qui sont à la mairie, qui sont une équipe jeune, un peu surdiplômée, et qui viennent pour appliquer ce programme-là et pour le faire exister dans cette ville-là, c'est pas pour rien, quoi. À Cesson-Sévigné, on a des équilibres très différents. On a plus un espèce de consensus intellectuel sur le développement durable entre les élus, l'équipe élue et le maire qui ne ressort pas forcément, qui est là pour plus faire médiateur, pour prendre la décision au moment qu'il faut, mais quelque chose un peu plus horizontal. Et du coup, le développement durable n'est pas forcément mis en point fondamental de la politique, c'est plus une sorte de paradigme qui se sont appropriés de par aussi leurs études respectives, c'est pas mal des ingénieurs, des enseignants, et qui devient un peu un paradigme implicite, fruit de consensus entre des personnes très très différentes. Donc, on brosse évidemment pas mal. Donc après, une fois qu'on a identifié un peu les porteurs du discours sur l'aspiration, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu les leviers d'adhésion à ce discours ou de rejet de ce discours. Bon, on a des aspects, par exemple, résilience, qui sont très souvent évoqués, mais moi, j'aborde plus la résilience comme un discours sur les passerelles entre passé qui peut être traumatique, comme Al Sangoual ou Selamine, et un avenir qu'on veut porteur, mobilisateur et positif. Et donc, c'est plus des discours de résilience que j'étudie qu'un fait de résilience où je ne sais pas s'il y a ou pas, quoi. Donc, à Al Sangoual, l'un des leviers principaux, c'est celui-là, c'est la capacité qu'ont les équipes municipales et après les habitants à apporter cette cohérence entre la mine non durable vers la durabilité, mais dans une cohérence, dans quelque chose qui n'est pas la négation du passé, ni un avenir lointain, c'est un avenir qu'on construit ensemble. À Cesson-Sévigné, il y a pareil un investissement du développement durable comme une solution vers l'avenir. Cesson-Sévigné, donc pour l'instant, a été plutôt une ville pas villenaire, pas mixte, mais qui est confrontée à des enjeux territoriaux forts, qui est l'augmentation démographique, la nécessité d'avoir plus de mixité, de aussi faire bouger un territoire qui peut être un petit peu étriqué. Ils voient leur commerce partir, donc de rentrer dans une dynamique. Et du coup, il y a la construction d'un écoquartier qui est proposé, qui crée pas mal de conflits parce que cette densité, cette mixité sont les maîtres mots de cet écoquartier. Mais en même temps, les habitants et aussi l'équipe municipale investissent comme levier positif cet écoquartier en lui donnant un rôle d'améliorer le lien social, faire une passerelle pour une meilleure qualité de vie, permettre à ces sons d'évoluer avec des contraintes qui peuvent faire peur, mais d'une manière positive. Donc, le levier donc principal que moi j'ai vu apparaître, c'est cette mise en cohérence dans les discours, mais aussi dans les esprits des habitants, et l'histoire l'élément d'un écoquartier comme passerelle du lien social dans les villes qui résout des fractures qui peuvent déjà exister. Donc on a vu beaucoup les mairies jusqu'à maintenant, je vous ai parlé un tout petit peu des habitants. Entre les deux, il y a aussi des relais de l'aspiration à la durabilité qui peuvent être les associations. Soit elles sont directement à vocation écologique, soit elles sont relais parce qu'elles ont des subventions municipales et puis que du coup elles s'investissent là-dedans. Il y a aussi la place des entreprises, pareil, soit qui sont typiquement des plans durables, soit qu'elles s'investissent aussi dans cette promotion de la durabilité, notamment à cause de leurs contraintes responsabilité sociale des entreprises. Donc, dans toutes ces figures, plus municipalités, différentes figures de la mairie, et puis associations entrepreneurs, j'essaye de les rapprocher de la figure des entrepreneurs de morale, telle que Baker a pu les étudier. Alors, côté habitants, on voit... alors, c'est difficile de parler d'appropriation parce que ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un discours descendant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus comment les habitants portent un type de discours qui pourrait entrer en affinité avec celui classique porté par le développement durable, ceux qui le formulent comme tel. Ce qui est très prégnant, c'est de voir la façon dont on se recoupe, la façon dont les habitants portent ce discours et les fractures territoriales qu'on peut observer. Donc à Al Sangoual, on a une fracture territoriale qui existe entre le centre-ville, plutôt des gens privilégiés au sein de cette ville-là, un peu plus éduqués, un peu plus dynamiques, et un quartier ouest qui est historiquement stigmatisé à cause de l'histoire minière, isolé par une route, enfin qui est un peu... le quartier qui peine un peu plus. Et donc dans le centre, on a un petit peu, quand on a interrogé, on a fait des ateliers donc, avec les habitants, Et on les a interrogés sur les domaines importants de la qualité de vie pour vous, et puis après les critères, on a fait de la concertation comme ça. Et dans le centre, facilement, on a vu être mobilisé le vocabulaire classique du développement durable, avec parfois des gens qui ont à cœur de nous sortir tous les mots qu'il faut absolument sortir pour parler de développement durable. Dans le quartier ouest, on n'a pas du tout cet investissement-là. Quand on fait une catégorie écologie, je crois, ils mettent que éco-quartier dedans, mais ce n'est pas très investi après dans la suite de discussion. Mais par contre, toutes les thématiques qu'on pourrait intellectuellement attribuer plutôt au développement durable se retrouvent dans d'autres catégories, notamment l'urbanisme, où sont mobilisés des critères comme l'environnement naturel préservé, le lien social se retrouve aussi dans les autres catégories, un habitat agréable, enfin des choses qui font partie du développement durable mais qui ne sont pas investies avec ce vocabulaire-là. Donc à Cesson-Sévigné, la partition géographique de la façon dont les habitants se sont appropriés le développement durable était moins clivée certainement. On a vu surtout une importance, enfin le fait que les gens qu'on a interrogés sont plutôt dans un contexte pavillonnaire, que ce soit différents types de populations, c'est toujours ça qui est valorisé. On a plus vu des aspects des plans durables mis en avant, mais souvent par les perspectives individuelles, l'importance de manger bio, la volonté d'avoir des jardins familiaux. La préservation de la nature, c'était souvent via la volonté d'aller se promener ou avoir des loisirs agréables pour soi. Donc souvent l'entrée par le regard, le vécu individuel, les aspects plus collectifs étaient plus porteurs de peur pour eux, donc toujours densité, mixité, qui étaient vécus comme une sorte d'agression bien souvent. Alors, nous pouvons nous poser à ce stade de l'argumentation un peu rapide la question du succès ou non de cette justification. Donc on a déjà parlé la résilience qui peut permettre, enfin, la mise en cohérence entre passé, présent et futur des habitants comme levier d'adhésion au discours sur le développement durable. On voit que à Cesson comme à Loos, l'important c'est de pouvoir raccrocher ce qu'on nous propose pour les habitants, ce qui nous est proposé en développement durable, à un vécu positif. À Cesson-Sévigné, où la densité pouvait faire tellement peur, quand ils ont pu raccrocher ça à un quartier déjà un peu dense, qu'ils connaissaient et où finalement c'était pas si mal, ils ont dit « Ah bon, ça va aller, par contre tel autre quartier, on veut pas ». Donc il y a cette importance de raccrocher un vécu positif, qui peut être aussi un vécu par le passé. On voit apparaître aussi des mises en cohérence un peu surprenantes, mais qui portent le développement durable. Par exemple, avec des modes d'organisation de l'époque minière, si le développement durable nous propose un mode d'organisation sociale un petit peu proche, quand on l'a vécu positivement, ça peut porter. C'est l'exemple aussi assez classique de l'importance des personnes du troisième âge qui parlent de l'économie un peu qui existait après-guerre et de ce qui était bien aussi dans cette économie de pénurie, qui est réinvestie comme porteur du développement durable. On dit, mais on peut faire pareil, nous on faisait déjà ça, on cultivait à côté de chez nous. Donc quand on le raccroche à un vécu positif présent ou passé, ça porte le développement durable réellement. Donc la question, malgré tout, quand on commence à s'intéresser aux aspirations des habitants, à ce qui leur fait peur ou pas, et à l'adhésion ou au rejet de ce qui est proposé en matière de développement durable, c'est de faire le constat que le développement durable aujourd'hui, surtout dans ses aspects écologiques, se propose plutôt comme une imposition de normes sur les territoires, enfin en tout cas dans les deux villes où j'ai étudié, j'ai l'impression souvent, à travers les agendas 21, le Grenelle, la traduction dans les PADD, on en a parlé tout à l'heure, dans les PLU. Et en même temps, il y a à l'intérieur du développement durable une exigence de prise en compte du bottom-up, de la parole citoyenne, de l'envie des citoyens et de l'aspiration citoyenne. Et on a un petit peu, c'est un peu le nœud problématique que je me pose et pas encore résolu, désolé, mais entre l'exigence de prendre en compte les aspirations des habitants, leurs envies, leur façon de se projeter, et la proposition d'une aspiration du développement durable qui finalement est très définie et où on sait ce qu'il y a dedans. Donc, dans cette, enfin, l'un des exemples souvent qu'on a, enfin, dans les deux villes là que j'ai étudiées, les deux, pour les habitants, le facteur d'attractivité de leur territoire, c'était la ville à la campagne. C'était la chose à préserver. Et en plus, pour eux, ça rentrait tout à fait en cohérence avec l'écologie, parce que la ville à la campagne, c'est celle proche de la nature et tout. Et on le sait, en fait, le développement durable, le modèle de la ville à la campagne, c'est la ville qui est avec des maisons isolées, donc usage de la voiture, c'est pas une ville du tout écologique. Donc, entre l'aspiration de ses habitants ou la volonté de se réaliser, c'est d'avoir sa maison et de vivre à la campagne au milieu nature, et ce qu'il leur est proposé, bah, on voit des conflits apparaître. Et des solutions à gérer pour le développement durable qui le confrontent à ses propres contradictions. Donc, pour finir, je dirais que l'un des points forts qui révèle ce genre de tension, c'est le fait que dans les ateliers, on a demandé le choix méthodologique de l'animation était d'entrer par les rêves des participants pour leur ville. Et par les critères de la qualité de vie idéale pour eux. Qu'est-ce qui serait votre ville rêvée, voilà. Et alors, on peut se poser la question de est-ce que c'est correct, hein, est-ce que c'est utile de formuler comme ça, de demander aux gens de rêver, si la justification écologique est déjà une imposition de normes nouvelles qui est déjà prédéfinie. Il nous semble que cette logique ne serait pas non seulement éthiquement cohérente, il y a dans les points durables une dimension éthique très forte, mais en plus, si on relie Chambard de l'eau, elle n'est pas viable dans la réalisation des actions. Parce que le développement durable, c'est une proposition de changement de la mode de valorisation de ce qui nous entoure, mais aussi des pratiques qui vont avec. Et donc, pour l'efficience même, il y a une nécessité de prise en compte de ses aspirations. Pour ne pas mener systématiquement au conflit que ces concertations cherchent à éviter, les procédures de concertation mises en place sur les territoires doivent donc être des moments pas seulement d'information descendante ou de remontée des opinions, mais elles doivent être des instances de co-construction entre les aspirations des développement durable et les aspirations habitantes et usagers des territoires, et des moments de co-construction entre les différents acteurs. L'enjeu là, c'est que on puisse dépasser un peu l'opposition entre une utopie un peu technicienne, souvent proposée par le développement durable, et quelque chose qui porte vraiment les habitants, avec la notion du mythe que je vous disais en début d'intervention, pour que ça soit un mythe populaire, ce développement durable un peu technicien.
Merci.